parlons-en. Ouais, parlons-en, ouais. Mais parlons-en, ben. Ouais, j'ai des choses à dire. Ben voilà, alors on s'exprime. Parlons-en. Parlons-en.
Direction l'Europe, l'Union Européenne, avec nos deux reporters Pierre et Chanel qui se sont rendus au Parlement européen récemment grâce à Radio Campus France. Et oui, on fait des beaux cadeaux, on a un peu une agence de voyage ici aussi. Et ils nous ont ramené interview, reportage, chronique pour questionner le rôle de cette institution. À vous les amis.
Et quel cadeau, bonsoir.
Bonsoir, on va d'ailleurs tout de suite commencer avec une interview sur le sentiment d'appartenance à l'Union Européenne, dans laquelle on va retrouver Catherine Trottmann, qui est membre de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Ensuite, on va avoir Jean-Luc Benamias, membre de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Et enfin, notre vaillant Daniel Cohn-Bendit, coprésident du groupe des Verts.
Enfin, bon, je regarde au niveau sport.
Tout ça pour dire d'abord que ces noms qu'ils donnent aux commissions leur servent pas tout à fait à grand chose. Hein. Ça sert juste à les catégoriser en quelque sorte dans des petites boîtes, mais dans le fond, oui. Tout ça c'est très touffu.
Quand ils sont suppléants par exemple et qu'on va demander une interview, il faut savoir que c'est pas la peine. Quand ils sont suppléants, ils connaissent pas du tout le sujet.
Quand je regarde au niveau sportif, il y a bien un sentiment européen. Quand on regarde les grands championnats européens des grands sports, football, rugby, athlétisme, natation, il y a bien un sentiment européen. Quand on regarde au niveau de ce qui existe au niveau musical, du classique au rock, à la techno, qui est musique nouvelle, il y a bien un sentiment européen. Enfin, il n'y a pas de. Il me semble bien quand même que on ne regarde pas que les matchs franco-français quand on regarde quelque chose de sportif. On n'écoute pas que de la musique, de la chanson française quand on fait de la culture. Quand on parle cinéma, on ne regarde pas que des films français. Enfin bon, je crois qu'il faut qu'on soit à ce niveau-là. Et c'est par des phénomènes justement culturels, des phénomènes de grands impacts sportifs qu'on peut aussi retrouver du sens à la notion de citoyenneté européenne.
Alors, donc c'est pas un problème du Parlement européen, c'est un problème de la structure démocratique en général. Le problème, c'est pas que les gens ne sont pas concernés par le Parlement européen, ils se sentent pas concernés par les décisions politiques, qu'elles soient au niveau national ou au niveau européen. Et ça, c'est le fonctionnement de notre démocratie qui a éloigné les citoyens des décisions politiques. Et ça, c'est quelque chose, il n'y a pas de réponse facile. D'abord, il faudrait réformer la Constitution européenne. Deuxièmement, vous savez, simplement croire que parce que vous avez des enseignants qui vous parlent de la Constitution européenne à l'école, ça rapproche le citoyen, c'est pas si simple que ça, parce que je suis sûr que dans les écoles françaises ou allemandes, ils vous parlent du système politique allemand ou français, et quand même, les jeunes se sentent très loin de ça. Mais j'avoue que je ne prétends pas avoir trouvé l'œuvre de Christophe Colomb.
Nous sommes des pays différents. Je pense qu'on avance de fait dans la construction d'une société européenne. Sur certains sujets, il y a une attitude européenne par rapport à la guerre, par rapport aux valeurs, par rapport à la démocratie, par rapport au rôle de l'Union européenne dans le monde comme facteur de paix. Bon, je pense qu'il y a une opinion qui s'est forgée et qui est une opinion qui s'est forgée historiquement et qui continue d'influer. Mais on n'a pas tout réglé. Il y a des retours de populisme et de nationalisme qui sont extrêmement dangereux. C'est dû aux difficultés économiques. C'est dû au fait que les Européens considèrent que l'Europe n'a pas été capable de les protéger assez contre les risques de crise et contre les inégalités sociales. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut se briser. Réussissons notre intégration politique, donnons plus de place aux citoyens, réussissons notre légitimité démocratique parlementaire pour faire en sorte de montrer que le modèle européen peut réussir, mais il ne réussira que si au-delà de ce qui a été pour certains le seul but de construire un marché, un espace démocratique et socialement juste, ça c'est ce que nous devons réussir. C'est ça le modèle européen. Le modèle social en fait partie de la démocratie en Europe. Et donc nous devons réussir ce point-là, faire en sorte que les jeunes retrouvent l'espoir d'avoir un emploi, une place, une décision pour l'avenir qui est le leur. Si on n'arrive pas à ça, c'est ça qui nous mobilise, hein. Si on n'arrive pas à ça, on aura raté l'objectif.
Bon, vous l'aurez remarqué, on a trois points de vue différents, mais qui pourtant se rejoignent grosso modo. D'un côté, on aura une sorte d'attitude européenne, que je mets entre guillemets avec mes doigts, mais bien sûr vous ne voyez pas, qui serait historique, quelque chose qui nous relierait de par nos racines. Bon, du coup, on s'accorde tous pour dire qu'au niveau de la culture, il y a bel et bien une certaine cohérence, que ça soit à travers la musique, le cinéma, les spectacles, etc. Par contre, il faut l'avouer, c'est facile de dire qu'on sent européen tout ça parce qu'on supporte l'Allemagne face au Brésil à la Coupe du Monde. C'est au niveau politique que ça se corse. Dans un micro-trottoir, justement, que j'ai réalisé avec Pierre, on a demandé quelle est la différence entre le Parlement européen et la Commission européenne. Et là, bah, tout d'un coup, on est moins calé sur le sujet. Bon, après tout, vous me direz, comme on l'a entendu, les gens ne se sentent pas forcément concernés par les décisions politiques en général. Ça ne tient pas qu'à l'idée de l'Europe. Mais tout de même, sincèrement, qui suit véritablement les actualités des Pays-Bas, de la Roumanie, de la Finlande ? Eh bien, pas grand monde. Alors oui, une majorité ne se sent pas européenne. Qui blâmer ? L'éducation ? Franchement, c'est trop facile. On nous donne toutes les clés pour comprendre les institutions. On ne va pas non plus nous prendre par la main pour aller voter en 2014. La désinformation, peut-être, parce que oui, on l'entend. Et là, c'est vraiment la pire des excuses. Je sais pas, moi, faites quelque chose, poussez la porte d'une bibliothèque, allumez votre ordinateur et vous verrez, comme par magie, s'ouvrira devant vous le monde magique de la connaissance gratuite. Il faut aussi avouer, compte tenu de la conjoncture, on a tout à fait en droit de se poser des questions sur le bon fonctionnement de l'Europe. Et ça, bah, certains ne s'en privent pas. Je vous le donne dans le mille. Qui sont les rois de l'euroscepticisme, Pierre ?
Je dirais les Anglais.
Au hasard, comme ça,
je sais pas pourquoi. Les Chypriotes aussi sont très forts là-dedans, surtout en ce moment. Oui, les Anglais, notamment avec un député, Graham Watson, que nous sommes allés rencontrer, qui nous a donné, donc Graham Watson, qui est du parti centre-gauche. Alors, je vais pas vous donner la traduction en français ou en anglais, mais dans tous les cas, voilà ce que ça a donné.
Le 23 janvier dernier, David Cameron a menacé d'organiser un référendum dont le but serait de décider de la sortie ou non de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Interprétez-vous cela comme de l'euroscepticisme de la part des Britanniques ?
Je n'aime pas ce mot euroscepticisme. Il y a certains Britanniques qui sont anti-européens. Et ça a toujours été le cas, malheureusement, au sein du Parti conservateur. En ce moment, il y a un grand nombre de ces personnes, surtout parmi les rangs des députés parlementaires. Donc, M. Cameron se trouve dans une position très difficile. Il est presque prisonnier des gens, des députés de son propre parti qui veulent absolument un référendum. Cameron, il croit qu'en cédant un référendum, ces gens-là, ils vont se taire. Malheureusement, il a tort. Ils vont demander de plus en plus.
Pensez-vous que les chefs d'État aujourd'hui ont tous la même vision de l'Union européenne ?
Malheureusement, non. Je pense que certains chefs d'État et de gouvernement ont toujours l'âme européenne, comme Angela Merkel, par exemple, et d'autres, jusqu'à il y a récemment Mario Monti, et sûrement M. Napolitano, le président de l'Italie. Les chefs d'État et de gouvernement des petits pays savent que dans le monde d'aujourd'hui, il faut faire l'Europe. Ils n'ont pas le pouvoir eux-mêmes de faire prévaloir les valeurs de leur pays. Concitoyens, de défendre les intérêts de leurs concitoyens sans avoir l'Europe.
Alors derrière toutes ces questions, hein, toutes ces revendications que nous propose Graham Watson, et ben qu'est-ce qu'on en retient ? Et ben déjà que ce n'était pas une politique très sérieuse de la part d'un Premier ministre comme David Cameron de proposer l'idée de sortir de l'Union européenne par un référendum, surtout en 2017, donc après son mandat. Et tout ça pour dire en fait que y a pas que les Britanniques qui ont un certain type d'euroscepticisme. Mais alors d'où vient la faute? Et ben comme tu l'as dit, le problème est multiple.
Surtout qu'il faut arrêter de blâmer l'éducation, parce que vraiment on nous donne tout en main, donc
Tout à fait, voilà, c'est en fait le problème ne vient pas que de l'éducation, comme l'a dit monsieur Cohn-Bendit. Il faudrait d'abord reformer la constitution. Donc finalement, il est où le problème? Donc là, finalement, Graham Watson, donc comme j'ai dit, qui est un député anglais, nous a exposé en fait deux grands problèmes. C'est le problème notamment des dirigeants des États qui finalement ont leur parti pris pour leur pays, quoi, en clair, avant de penser même à l'Europe.
Et puis c'est surtout que quand il y a des échéances électorales, tout d'un coup l'Europe, on en a plus rien à faire, on pense d'abord à son pays avant de penser au tout.
Et exactement, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs quand il dit nous avons une démocratie mais pas de démos en Europe, c'est-à-dire nous avons une grande démocratie, il y a environ 750 députés, mais finalement il n'y a pas de voix commune, et on aperçoit même des députés dans le Parlement, dans l'hémicycle, donc qui n'ont rien à y faire. On pense notamment à monsieur Jean-Marie Le Pen, qui a une politique carrément anti-européenne.
Ça, c'est quand on aperçoit des députés, parce qu'on a aussi vu l'hémicycle vide. Il y a une petite photo sur Facebook, si vous voulez aller jeter un coup d'œil.
Alors finalement, en fait, le Parlement européen est plein de complexes et plein de paradoxes. Il est aussi complexe, d'ailleurs, je dirais, que son architecture. Et finalement, eh ben, la politique, eh ben, ça sert à quoi? Le Parlement, eh ben, il sert à quoi? Il nous a dit notamment, M. Graham Watson, qu'il y avait des amendes, qu'il y avait des répressions, qu'il discutait de choses importantes. Alors oui, amende, il y a amende. Et après, qu'est-ce qu'il y a après? On ne sait pas tout à fait. Alors, on va partir sur une autre interview, une interview de Monsieur Kirkhope, à un autre point de vue. Pourquoi ce député? Tout simplement parce que c'est le parti opposé à Monsieur Graham Watson. Donc, c'est un parti conservateur, le parti de... aide-moi ma chère, de Cameron, voilà. Donc, parti de droite, qui donc est pour, justement, la dissolution, enfin non, le fait que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne en 2017. Il va nous expliquer en fait son point de vue. Et ce qui est très intéressant en fait, c'est que il va faire ressortir une nouvelle problématique qui est l'inactivité des médias.
En fait, en réalité, les Britanniques, si vous leur demandez comment ils se définissent, ne disent pas nécessairement qu'ils se sentent britanniques. Si vous demandez aux gens ce qu'ils pensent vraiment être, ils vont probablement vous dire en premier de quelle ville ils viennent, dans le Yorkshire. Ensuite, ils vous diront qu'ils sont fiers de venir du Yorkshire. Ensuite, ils seront fiers d'être du nord de l'Angleterre et non du sud de l'Angleterre. Et après, ils diront sûrement qu'ils aiment être anglais et pas écossais, même si tout ça fait partie du même pays, la Grande-Bretagne. Ensuite, ils vous parleront certainement du Royaume-Uni et finalement, ils vous diront que oui, ils sont conscients du fait qu'ils sont aussi européens. Mon travail, c'est de représenter les gens en Europe. D'autres les représentent dans le pays, les membres du Parlement, de l'Assemblée nationale. Ils les représentent différemment et représentent un plus petit nombre de personnes que moi. Et ensuite, vous avez les élus locaux qui s'occupent de 4000 personnes à propos de sujets locaux, comme par exemple, est-ce qu'il y a des lumières dans les rues? Est-ce que les routes sont sûres dans les villes environnantes? C'est ça qu'ils font. Donc nous avons tous des responsabilités différentes. Mon problème par rapport à mes responsabilités est, étant donné que je suis tout en haut de l'échelle et que je représente 5 millions de personnes, comment est-ce que moi je leur fais passer le message que ce que je fais en Europe est utile? Les médias ne nous aident pas. Les journaux, s'ils prennent la peine de parler de nous, ne veulent parler que des problèmes. Ils ne veulent pas parler des opportunités. Donc c'est vraiment difficile pour moi. Et contacter 5 millions de personnes est bien plus difficile que de contacter 4000 personnes. Donc c'est encore ce même problème. Mais je pense que la réalité, c'est que les personnes s'identifient d'abord par rapport à leur voisinage le plus proche. Peu de gens peuvent vraiment se penser au niveau international ou même simplement en termes européens.
Alors finalement, donc c'est une interview de Timothy Kirkhope, donc qui fait partie du parti conservateur, donc en Grande-Bretagne, et qui nous révèle le nouveau couac, la complexité européenne, avec un problème notamment d'identification assez explicite. Hein. On peut voir notamment que dans chaque pays, on s'identifie d'abord aujourd'hui par rapport à sa région, par rapport à son pays, avant de penser qu'on est européen. Est-ce que finalement c'est un véritable problème des députés? Monsieur, notamment Kirkhope, repose la question en fait. Et il y a notamment une complexité dans l'organisation, donc ça facilite pas vraiment le débat. Hein,
on est complètement perdu, comme on vous l'avait dit quand on avait posé les questions dans le micro-trottoir. Personne ne sait exactement comment se compose l'Europe.
Et il relève notamment un autre gros problème qu'on en a parlé juste avant, qui est l'inactivité des médias. Alors effectivement, est-ce qu'on peut penser qu'il y a une inactivité des médias? Est-ce que vous, personnellement, en tant qu'auditeur, est-ce que vous voyez que les médias font quelque chose pour vous? Est-ce que vous essayez de vous documenter? Finalement, vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à vous intéresser à un sujet important tel qu'est l'Europe. En l'occurrence, nous, on est allé se balader, donc Laura qui a traduit l'interview de Kirkhope et moi-même dans les coulisses du Parlement. Ça nous a semblé intéressant. Pourquoi? Pour voir un petit peu tout ce qu'était studio radio et studio télévisé. Et voici ce qui en est ressorti.
Donc là, on est dans un studio qui sert à faire des émissions télé pour le Parlement. Et on est subjugué parce que c'est quand même assez énorme. Il y a des caméras qui tombent du plafond, de partout. On ne sait pas trop à quoi chaque élément sert, mais C'est un petit, donc c'est, voilà, c'est un plateau ovale. Il y a des sièges très design, beige autour de la table. Le studio est évidemment séparé. Tout ce qui est technique est derrière une vitre.
Extrêmement complexe, extrêmement complexe. Avec des boutons partout aussi.
Il y a des boutons partout, des fils partout. Il y a un gros bouton on-air au-dessus de la vitre qui sépare le plateau de la technique. Il y a des horloges un petit peu partout, je suppose, pour que les invités puissent se repérer. Il y a des télés aussi qui font partie du décor extérieur du plateau.
Et finalement, ce qu'on se pose comme question quand on voit tout ça, c'est finalement, le Parlement européen, il a les moyens de faire de la médiation, de faire parler de lui. Et les médias, ils sont où dans tout ça? Voilà, c'est un peu ça la question qu'on se pose. Et oui, les médias, ils sont où dans tout ça finalement? Parce que après avoir fait cette petite visite guidée par un très gentil ingé son, on a découvert qu'il y avait une bonne dizaine de studios radio, tous vides, à notre grand étonnement. On a découvert aussi donc un studio télévisé. Bref, il y a de quoi au Parlement européen pour faire parler de lui, pour faire parler de l'Europe. Et en l'occurrence, après avoir farfouillé dans les couloirs, interviewé... que sais-je, plein de gens, on a été stupéfait d'apprendre que la France était dernière au classement pour ce qui était de la médiation de l'Europe. Alors finalement, où il est concrètement le problème de l'Europe? Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas? Pourquoi est-ce que vous, chers auditeurs et étudiants, vous avez du mal à vous sentir européen? Est-ce que c'est un problème des députés? Non. Alors eux, ils ont direct dit que c'était un problème de l'éducation ou de l'investissement ou de la crise économique.
En même temps, ils vont pas dire que c'est
de
leur faute, Pierre.
Oui, en même temps, c'est ça. Ils vont pas dire que c'est vraiment de leur faute. Bon, alors, il vient d'où concrètement le problème? Est-ce que c'est le problème d'un sentiment européen d'appartenance en fonction des députés qui seraient plus pour ou contre la vie parlementaire, la vie européenne? Effectivement, il y a un gros problème de démocratie, un problème de démos. Peut-être est-ce que la démocratie est, comme l'a dit Churchill, le pire des systèmes politiques, mais après tout, c'est comme ça qu'on va construire l'Europe. Alors finalement, est-ce que c'est le problème des médias?
Moi, je vais juste répondre à ta question. Où sont les médias? Les médias sont là. Le 103 est parti à Strasbourg.
Le 103 est bien là dans vos oreilles. Moi, j'ai une question aussi. Finalement, est-ce que l'Europe peut fonctionner sans les citoyens? Est-ce que les citoyens ont vraiment besoin de s'intéresser à l'Europe pour qu'elle fonctionne?
Moi, franchement, je vais répondre en tant que citoyen européen. Je pense que si on veut que, on peut pas se sentir citoyen d'un État si on n'a même pas conscience que, si on n'a même pas conscience en fait que cet État existe en fait. Mmh. Donc à partir de là, l'Europe ne peut pas être.
Parce que par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont manger du pain sans s'occuper de celui qui fabrique le pain. Tant qu'ils ont du pain, ils s'en foutent. Et finalement, est-ce que voilà, c'est une métaphore à la con, mais c'est ma question. Est-ce que l'Europe a besoin qu'on s'y intéresse pour qu'elle intéresse et pour qu'elle marche?
C'est le problème aujourd'hui. Excuse-moi, ma chère.
Chanel, excuse-moi.
C'est le problème aujourd'hui. Si l'Europe vraiment est en rame aujourd'hui, c'est justement parce que les gens ne s'y intéressent pas. C'est parce que les gens ont un problème d'euroscepticisme, ne se sentent pas concernés.
Donc le problème ne vient pas de l'Union européenne, mais des Européens.
Non, justement. Là, justement, est tout le couac de ce langage de technocrate qu'on vous a sorti à travers toutes nos interviews et qu'on essaye de décortiquer. Oui, ma chère Chanel, tu essaies de dire quelque chose depuis tout à l'heure,
voilà,
tu
vas faire des
grands. Moi, en tant qu'animateur, je prends le parti naïf de l'auditeur.
Pas de problème, nous ne te jugeons pas, Antoine. Moi, je suis absolument pas d'accord parce que, honnêtement, c'est pas aux Européens de choisir la politique. C'est-à-dire que, en fait, les Européens, ils pensent qu'à eux. Quand on a interviewé les étudiants, ils parlaient que d'Erasmus, ils sortaient pas de leurs petites conditions de jeunes. Et finalement, c'est pour ça que l'Europe, ça avance pas. Parce qu'on veut juste que l'Europe s'occupe de nous et pas de tous les autres à côté.
D'accord.
Et voilà, c'est que mon avis personnel, après.
Alors moi, en objection, je vais simplement vous passer une interview... Une interview donc de Ariel, un ingé son que j'ai rencontré justement dans les studios et qui nous a un peu plus éclairé sur le qui, le quoi, pourquoi en fait. Pourquoi y a-t-il un problème dans la politique européenne?
L'Europe, c'est juste un mot. Les gens s'intéressent aux gens. Mais comme on souffre tous en ce moment, on nous a inventé une crise, donc on se replie sur nous-mêmes, on regarde un peu moins vers l'autre, on est moins sympa pour l'autre. Le désintérêt pour l'Europe, c'est pas un désintérêt, je crois, pour l'Europe, c'est un désintérêt pour les politiques menées par les dirigeants. Et le gros problème aujourd'hui, c'est la faillite démocratique, c'est-à-dire que nous votons pour des gens qui ne nous représentent plus vraiment. Donc moi, voilà, je n'y crois plus trop. La démocratie, pour moi, ça devrait être la nomination et pas l'élection. Tout le monde, à son tour, devrait avoir une responsabilité dans la collectivité. Comme ça, on serait tous co-responsables, chacun à son tour. Et il n'y a pas question de vote. C'est la politique professionnelle, elle est nuisible pour nous, citoyens, à comprendre le monde. Et donc, oui, non, je crois que les gens, ils se désintéressent de l'Europe. Pas à cause du projet européen, parce qu'il y a tout à faire. On a plein de choses à faire, c'est merveilleux. Ici, dans cette maison au Parlement, il y a 27 pays, 27 cultures, 27 sortes de nanas, 27 sortes de mecs. C'est magnifique, c'est génial, des petits, des grands, des gros. Il n'y a pas un plus bel observatoire de culture qu'ici, à Strasbourg, je veux dire. Hein, dans notre région, c'est une chance unique que nous avons de rencontrer ces gens. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment de l'espoir pour des projets en Europe, des projets entre les gens. Mais le problème, c'est qu'ils ne s'intéressent qu'à l'argent. Moi, je travaille beaucoup. Là, vous avez Olli Rehn qui est à l'écran de télévision. Là, c'est le commissaire en charge du pognon. Et ils s'intéressent qu'à ça. Et c'est génial parce qu'ils disent, ils nous disent, la Commission européenne, qu'ils s'intéressent aux gens. Mais d'abord, il faut résoudre le problème du fric. Mais je suis désolé, nous ne sommes pas de l'argent, on n'est pas des porte-monnaies, on est des êtres humains avec des cœurs, des pensées, des pulsions. Et c'est peut-être la faillite de l'Europe, elle est là de ne pas tenir compte de ce que nous, on est vraiment les gens.
Et voilà concrètement, donc est-ce que l'Europe ne tient pas finalement concrètement de ce que nous, on est les gens? Qu'en penses-tu ma chère Chanel pour conclure un peu ce débat?
Eh bien, je pense qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin que chaque personne se sente européen. Le principal, c'est qu'il y ait des gens qui fassent les choses qui sont bonnes pour nous, parce qu'on n'est pas qualifié pour les faire.
Et le principal, c'est qu'on continue à en parler. On en reparlera sur le www.radiocampusangers.com et vous viendrez vous en parler. J'imagine que Pierre et Chanel, ça vous intéresse de poursuivre ces discussions.
Tout à fait, d'ailleurs.
Il y aura une émission que Pierre est allé préparer à Bordeaux avec notre collègue Laura.
Voilà, c'est un peu plus préparé que celle-ci. Hein,
qui durera 2 heures, ça sera deux fois une heure.
Ouais, voilà. Bah, déjà, c'était 20 minutes d'introduction plutôt intéressante, vraiment.
Qui
merci
pose un petit
vous.
Peu le débat, tout à fait.
Et on va continuer le débat en musique avec Safe European Home, une chanson des Clash.
Quel beau choix.
Ouais.
Une émission proposée par la rédaction de Radio Campus Angers.